Et cependant, les tableaux...
Ah oui, évidemment. Et tout de même, est-ce une preuve suffisante ?
Lupin se pencha sur celui que le notaire avait tiré de l'armoire, et après l'avoir examiné longuement... Vous avez parlé de 3 tableaux.
Oui, l'un que voici fut remis à mon prédécesseur par les héritiers de Charles. Louise d'Ernemont en possède un autre. Quant au troisième, on ne sait ce qu'il est devenu.
Lupin me regarda et continua. Et chacun d'eux portait la même date.
Oui, inscrite par Charles d'Ernemont lorsqu'il les fit encadrer peu de temps avant sa mort. La même date. 15-4-2, c'est-à-dire le 15 avril an 2, selon le calendrier révolutionnaire, puisque l'arrestation eut lieu en avril 1794.
Ah, bien, parfait. Le chiffre 2 signifie... Il demeura pensif durant quelques instants et reprit. Encore une question, voulez-vous? Personne ne s'est jamais offert pour résoudre ce problème? Maître Valandier leva les bras.
« Oh, que dites-vous là ? Mais ce fut la plaie de l'étude ! De 1820 à 1843, un de mes prédécesseurs, Maître Turbon, a été convoqué 18 fois à Passy par le groupe des héritiers auxquels des imposteurs, des tireurs de cartes, des illuminés avaient promis de découvrir les trésors du fermier général. À la fin, une règle fut établie. Toute personne étrangère qui voulait opérer des recherches devait au préalable déposer une certaine somme.
Quelle somme ?
5000 francs. En cas de réussite, le tiers des trésors revient à l'individu. En cas d'insuccès, le dépôt reste acquis aux héritiers. Comme ça, je suis tranquille.
Voici les 5000 francs. Le notaire sursauta.
Hein ? Et que dites-vous ?
Je dis... répéta Lupin en sortant 5 billets de sa poche et en les étalant sur la table avec le plus grand calme. « Je dis que voici le dépôt de 5000 francs. Veuillez m'en donner reçu et convoquer les héritiers d'Ernemont pour le 15 avril de l'année prochaine, à Passy. » Le notaire n'en revenait pas. Moi-même, quoique Lupin m'eût habitué à ses coups de théâtre, j'étais fort surpris.
« C'est sérieux ?»
Absolument sérieux.
Pourtant, je ne vous ai pas caché mon opinion. Toutes ces histoires invraisemblables ne reposent sur aucune preuve.
Je ne suis pas de votre avis. Le notaire le regarda comme on regarde un monsieur dont la raison n'est pas très saine. Puis, se décidant, il prit la plume et libella sur le papier timbré un contrat qui mentionnait le dépôt du capitaine en retraite Janniot et lui garantissait un tiers des sommes par lui découvertes.
« Et si vous changez d'avis, je vous prie de m'en avertir 8 jours d'avance. Je ne préviendrai la famille d'Ernemont qu'au dernier moment, afin de ne pas donner à ces pauvres gens un espoir trop long. »
« Vous pouvez les prévenir dès aujourd'hui, maître Valandier. Ils passeront de la sorte une année meilleure. » On se quitta. Aussitôt dans la rue, je m'écriai « Vous savez donc quelque chose ?»«
Moi ?»
Rien du tout. Et c'est là précisément ce qui m'amuse.
Mais il y a 100 ans que l'on cherche.
Il s'agit moins de chercher que de réfléchir. Or, j'ai 365 jours pour réfléchir. C'est trop. Et je risque d'oublier cette affaire, si intéressante qu'elle soit. Cher ami, vous aurez l'obligeance de me la rappeler, n'est-ce pas ? Je la lui rappelai à diverses reprises pendant les mois qui suivirent, sans que d'ailleurs... Il parut y attacher beaucoup d'importance. Puis il y eut toute une période durant laquelle je n'eus pas l'occasion de le voir. C'était l'époque, je le sus depuis, du voyage qu'il fit en Arménie et de la lutte effroyable qu'il entreprit contre le sultan rouge, lutte qui se termina par l'effondrement du despote. Je lui écrivais toutefois à l'adresse qu'il m'avait donnée et je pus ainsi lui communiquer que certains renseignements obtenus de droite et de gauche sur ma voisine, Louise d'Ernemont, m'avaient révélé l'amour qu'elle avait eu quelques années auparavant pour un jeune homme très riche qu'il aimait encore, mais qui, contraint par sa famille, avait dû l'abandonner, ainsi que le désespoir de la jeune femme, la vie courageuse qu'elle menait avec sa fille. Lupin ne répondit à aucune de mes lettres. les recevait-il ? La date approchait cependant, et je n'étais pas sans me demander si ces nombreuses entreprises ne l'empêcheraient pas de venir au rendez-vous fixé. De fait, le matin du 15 avril arriva. Et j'avais fini de déjeuner que Lupin n'était pas encore là. À midi un quart, je m'en allai et me fis conduire à Passy. Tout de suite, dans la ruelle, j'avisai les quatre gamins de l'ouvrier qui stationnaient devant la porte. Averti par eux, Maître Valandier accourut à ma rencontre.
« Eh bien, le capitaine Janniot !»«
Mais il n'est pas ici ?»«
Ah non ! Et je vous prie de croire qu'on l'attend avec impatience !»
Les groupes, en effet, se pressaient autour du notaire, et tous ces visages, que je reconnus, n'avaient plus leur expression morne et découragée de l'année précédente.
« Ils espèrent ! Et c'est ma faute ! Que voulez-vous ? Votre ami m'a laissé un tel souvenir que j'ai parlé à ces braves gens avec une confiance que je n'éprouve pas !» « Mais tout de même, c'est un drôle de type que ce capitaine Janniot. »
Il m'interrogea, et je lui donnai sur le capitaine des indications quelque peu fantaisistes que les héritiers écoutaient en hochant la tête. Louise d'Ernemont murmura
« Et s'il ne vient pas ?»«
Nous aurons toujours les 5 000 francs à nous partager !»
dit le mendiant. N'importe. La parole de Louise d'Ernemont avait jeté un froid. Les visages se renfrognèrent, et je sentis comme une atmosphère d'angoisse qui pesait sur nous. À 1h30, les deux sœurs maigres s'assirent, prises de défaillance. Puis le gros monsieur, à la jaquette malpropre, eut une révolte subite contre le notaire.
« Parfaitement, Maître Valandier, vous êtes responsable. Vous auriez dû amener le capitaine de gré ou de force. Un farceur, évidemment !»
Il me regarda d'un œil mauvais, et le valet de chambre, de son côté, maugréa des injures à mon ami. Mais l'aîné des gamins surgit à la porte en criant
« Ah, voilà quelqu'un ! Une motocyclette !»
Le bruit d'un moteur grondait par-delà le mur. Au risque de se rompre les os, un homme à motocyclette dégringolait la ruelle. Brusquement, devant la porte, il bloqua ses freins et sauta de machine. Sous la couche de poussière qui le recouvrait comme d'une enveloppe, on pouvait voir que ses vêtements gros bleus, que son pantalon aux plis bien formés, n'étaient point ceux d'un touriste, pas plus que son chapeau de feutre noir, ni que ses bottines vernies.
« Mais ce n'est pas le capitaine Janniot !»
clama le notaire qui hésitait à le reconnaître.
« Si !»
affirma Lupin en nous tendant la main.
« C'est le capitaine Janniot. Seulement j'ai fait couper ma moustache. » « Maître Valandier, voici le reçu que vous avez signé. »
Il saisit un des gamins par le bras et lui dit « Cours à la station de voiture et ramène une automobile jusqu'à la rue Raynoir.
Allez, galope ! J'ai un rendez-vous urgent, à 2h15. »
Il y eut des gestes de protestation. Le capitaine Janniot tira sa montre.
« Et quoi ? Il n'est que 2h12. J'ai 15 bonnes minutes. Mais pour Dieu que je suis fatigué. Et surtout comme j'ai faim. »
En hâte, le caporal lui tendit son pain de munitions qu'il mordit à pleines dents. Et s'étant assis, il prononça
« Vous m'excuserez, le rapide de Marseille a déraillé entre Dijon et La Roche. Il y a une 15aine de morts et des blessés que j'ai dû secourir. Alors, dans le fourgon des bagages, j'ai trouvé cette motocyclette. Maître Valandier, vous aurez l'obligeance de la faire remettre à qui de droit. L'étiquette est encore attachée au guidon.
Ah ! Te voici de retour, gamin. L'auto est là, au coin de la rue Raynoir. À merveille. »
Il consulta sa montre.
Eh, pas de temps à perdre.
Je le regardai avec une curiosité ardente. Mais quelle devait être l'émotion des héritiers d'Ernemont ? Certes, ils n'avaient pas, dans le capitaine Janniot, la foi que j'avais en Lupin. Cependant, leur figure était blême et crispée. Lentement, le capitaine Janniot se dirigea vers la gauche et s'approcha du cadran solaire. Le piédestal en était formé par un homme au torse puissant qui portait sur les épaules une table de marbre dont le temps avait tellement usé la surface qu'on distinguait à peine les lignes des heures gravées. Au-dessus,
un amour aux ailes déployées tenait une longue flèche qui servait d'aiguille. Le capitaine resta penché environ une minute, les yeux attentifs. Puis il demanda « Un couteau, s'il vous plaît. » 2 heures sonnèrent quelque part. À cet instant précis, sur le cadran illuminé de soleil, l'ombre de la flèche se profilait suivant une cassure du marbre qui coupait le disque à peu près par le milieu. Le capitaine saisit le couteau qu'on lui tendait, il l'ouvrit, et à l'aide de la pointe, très doucement, il commença à gratter le mélange de terre, de mousse et de lichen qui remplissait l'étroite cassure. Tout de suite, à 10 centimètres du bord, il s'arrêta, comme si son couteau eût rencontré un obstacle, enfonça l'index et le pouce, et retira un menu objet qu'il frotta entre les paumes de ses mains et offrit ensuite au notaire. « Tenez, maître Valandier, voici toujours quelque chose. » C'était un diamant énorme, de la grosseur d'une noisette et taillé de façon admirable. Le capitaine se remit à la besogne. Presque aussitôt, nouvelle halte. Un second diamant, superbe et limpide comme le premier, apparut. Et puis il en vint un troisième et un quatrième. Une minute après, tout en suivant d'un bord à l'autre la fissure, et sans creuser certes à plus d'un centimètre et demi de profondeur, le capitaine avait retiré 18 diamants de la même grosseur. Durant cette minute, il n'y eut pas autour du cadran solaire un seul cri, pas un seul geste. Une sorte de stupeur anéantissait les héritiers. Puis le gros monsieur murmura
« Crénom de crénom !»
Et le caporal gémit
« Ah, mon capitaine ! Mon capitaine !»
Les deux sœurs tombèrent évanouies. La demoiselle au petit chien se mit à genoux et pria, tandis que le domestique, titubant, l'air d'un homme ivre, se tenait la tête à deux mains et que Louise d'Ernemont pleurait. Lorsque le calme fut rétabli et qu'on voulut remercier le capitaine Janniot, on s'aperçut qu'il était parti. Ce n'est qu'au bout de plusieurs années que l'occasion se présenta pour moi d'interroger Lupin au sujet de cette affaire. En veine de confidence, il me répondit « L'affaire des 18 diamants !» Oh, mon Dieu ! Quand je songe que 3 ou 4 générations de mes semblables en ont cherché la solution. Et les 18 diamants étaient là, sous un peu de poussière.
Mais comment avez-vous deviné ?
Je n'ai pas deviné. J'ai réfléchi. Ai-je eu même besoin de réfléchir ? Dès le début, je fus frappé par ce fait que toute l'aventure était dominée par une question primordiale. La question de temps. Lorsqu'il avait encore sa raison, Charles d'Ernemont inscrivait une date sur les 3 tableaux. Plus tard, dans les ténèbres où il se débattait, une petite lueur d'intelligence le conduisait chaque année au centre du vieux jardin. Et la même lueur l'en éloignait chaque année au même instant, c'est-à-dire à 5h27. Qu'est-ce qui réglait de la sorte le mécanisme déréglé de ce cerveau ? Quelle force supérieure mettait en mouvement le pauvre fou ? Sans aucun doute, la notion instinctive du temps que représentait sur les tableaux du fermier général, le cadran solaire. C'était la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil qui ramenait à date fixe Charles d'Ernemont dans le jardin de Passy. Et c'était la révolution diurne qui l'enchassait à l'heure fixe, c'est-à-dire à l'heure probablement où le soleil, caché par des obstacles différents de ceux d'aujourd'hui, n'éclairait plus le jardin de Passy. Or, tout cela, le cadran solaire en était le symbole même. Et c'est pourquoi tout de suite, j'ai su où il fallait chercher.
Mais l'heure de la recherche, comment l'avez-vous établie ?
Tout simplement d'après les tableaux. Un homme vivant à cette époque, comme Charles d'Ernemont, eut inscrit 26 germinal en 2, ou 15 avril 1794, mais non 15 avril en deux. Je suis stupéfait que personne n'y ait songé.
Le chiffre 2 signifiait donc 2 heures.
Évidemment. Et voici ce qui dut se passer. Le fermier général commença par convertir sa fortune en bonnes espèces d'or et d'argent. Puis, par surcroît de précaution, avec cet or et cet argent, il acheta 18 diamants merveilleux. Surpris par l'arrivée de la patrouille, il s'enfuit dans le jardin. Où cacher les diamants? Le hasard fit que ses yeux tombèrent sur le cadran. Il était 2 heures. L'ombre de la flèche suivait alors la cassure du marbre. Il obéit à ce signe de l'ombre, enfonça dans la poussière les 18 diamants et revint très calmement se livrer aux soldats.
« Mais l'ombre de la flèche se rencontre tous les jours à 2 heures avec la cassure du marbre, et non pas seulement le 15 avril. »«
Vous oubliez, mon cher, qu'il s'agit d'un fou, et que lui n'a retenu que cette date, le 15 avril. »«
Soit, mais vous, du moment que vous aviez déchiffré l'énigme, il vous était facile depuis un an de vous introduire dans l'enclos et de dérober les diamants. »«
Très facile. » Et je n'eusse certes pas hésité si j'avais eu affaire à d'autres gens. Mais vrai, ces malheureux m'ont fait pitié.
Et puis vous connaissez cet idiot de Lupin. L'idée d'apparaître tout d'un coup en génie bienfaisant et d'épater son semblable lui ferait commettre toutes les bêtises.
Bon, la bêtise n'est pas si grande, si beau diamant. Voilà un contrat que les héritiers d'Ernemont ont dû remplir avec joie.
Lupin me regarda. Et soudain, éclatant de rire.
Ah, vous ne savez donc pas?
Celle-là est bien bonne. La joie des héritiers d'Ernemont.
Mais mon cher ami, le lendemain, ce brave capitaine Janniot avait autant d'ennemis mortels. Le lendemain, les 2 sœurs maigres et le gros monsieur organisaient la résistance. Le contrat, aucune valeur, puisque, et c'était facile à prouver, il n'y avait point de capitaine Janniot.
Le capitaine Janniot, d'où sort cet aventurier? Qu'il nous attaque, et l'on verra.
Louise d'Ernemont elle-même?
Non, Louise d'Ernemont protesta contre cette infamie. Mais que pouvait-elle? D'ailleurs, devenue riche, elle retrouva son fiancé. Je n'entendis plus parler d'elle.
Et alors?
Et alors, mon cher ami, prise au piège, légalement impuissant, j'ai dû transiger et accepter pour ma part un modeste diamant, le plus petit et le moins beau. Allez donc vous mettre en quatre pour rendre service à votre prochain.
Et Lupin bougonna entre ses dents.
Ah, la reconnaissance, quelle fumisterie! Heureusement que les honnêtes gens ont pour eux leur conscience et la satisfaction du devoir accompli.